Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission littéraire, le lire et le dire. Au micro, Jean-Claude Cayette. Cette émission a été préparée, concoctée avec Gwenaëlle Chambonnière qui m'a aidé dans cette périlleuse entreprise. Et le montage est assuré par Fouad Barra. Alors il y a quelques jours, nous étions au 18e étage de la bibliothèque François Mitterrand pour le salon du livre Ciel, salon indépendant des écrivains et libraires, où nous avons réalisé plusieurs interviews et en particulier le représentant des éditions Les 12 singes. Je vous invite à l'écouter. Nous sommes actuellement au stand des éditions des 12 singes. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes
Al Lucinon, le rédacteur en chef et l'auto-éditeur du collectif des 12 singes.
Donc vous êtes 12?
Nous sommes 12 par définition et le nom du collectif est issu du film L'armée des 12 singes, qui est un très très bon film. Mais étant donné qu'on n'aime pas l'armée, on s'est appelé le collectif des 12 singes.
Non, mais vous êtes vraiment 12 ou vous êtes peut-être 15 ou 16?
On est 12, il y a 7, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont permanents, on va dire ça comme ça, et il y a 5 compagnons de route.
Donc vous m'avez dit que vous appréciez le film L'armée des 12 singes, mais c'est aussi pour le côté recherche de vérité, etc., etc. Donc est-ce que ça fait partie justement de votre ligne éditoriale?
Tout à fait. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de véhiculer des informations sérieuses et surprenantes, mais sur un ton décalé pour les rendre le plus accessibles possible à tout un chacun. Un peu comme les documentaires qu'on peut voir sur France 5, Arte, ce genre de chaînes, qui ont des thématiques décalées, mais qui sont pour autant très sérieuses, très fouillées en termes scientifiques. C'est ce qu'on essaye de véhiculer dans nos différents ouvrages.
Redites-moi la phrase type que vous donnez pour vous définir.
Alors c'est sans aucune prétention, c'est un absolu éditorial, mais ce que nous essayons de faire, c'est tailler des shorts comme Coluche avec la gouaille de Desproges.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que vous vous appelez auteur-écriveur. Alors est-ce que vous faites cette distinction comme Barthes la faisait entre les écrivains et les écrivains, ou écriveur, c'est-à-dire écrire, pas forcément pour faire la littérature, mais aussi et peut-être d'abord et avant tout pour véhiculer les idées. Pourquoi ce nom de écriveur?
Alors en fait, écriveur, c'est un hommage également à Desproges qui disait que écrivain, c'est à la fois trop prétentieux et trop restrictif. C'est vrai que c'est des projets à long terme, mais on aimerait bien écrire une pièce de théâtre, éventuellement écrire des chansons, ma foi, pourquoi pas. C'est intéressant en termes de style à travailler. L'idée principale en tant qu'écriveur plutôt qu'écrivain, et encore, on vient encore d'avoir malheureusement de nombreux exemples aujourd'hui, c'est que dans ce cadre-là, on se considère pas non plus comme des artistes, comme on peut l'entendre couramment, parce que on apprécie pas du tout la connotation que certains se donnent en disant oui mais moi je suis un artiste. Ce côté pompeux, c'est pas à nous, pareil, c'est pas à nous de définir si on a du talent ou autre. On a des compétences.
Alors, est-ce que c'est aux chroniqueurs, par exemple, aux radios, à la presse, de le dire?
Je vais peut-être vous choquer, mais c'est même pas à vous de le dire, c'est au lecteur.
Non, mais moi je pose des questions. Hein.
Tout à fait, je comprends bien. C'est pas une attaque en règle contre les médias, loin de là. C'est juste que chacun a un point de vue. Évidemment, les médias ou les critiques culturelles au sens large ont un point de vue professionnel. Les lecteurs lambda ont un point de vue passionnel. Après, c'est pas à nous. Il y a une très belle. Nous, on fonctionne beaucoup par citation, par jeu de mots, par expression. Qui suis-je pour me juger moi-même? Donc, c'est pas à nous de dire. Nous avons du parce que c'est le début de la prétention artistique qui forcément limite la qualité du travail.
Donc, d'après certains titres, alors je peux citer par exemple Les murs ont la parole, photographie d'expression murale, ou encore La philosophie savent par quoi, pardon, ça trouve le cul, on voit bien que il n'y a pas justement un artiste, mais peut-être plusieurs, par grâce auquel quelque chose est véhiculé, quelque chose qui peut être anonyme, mais qui vient nous faire réfléchir. Et c'est vrai que South Park, derrière son côté très puéril, très ludique, vient au contraire donner une image satirique de la société américaine. Pareil pour ces petits proverbes anonymes qui peuvent être gravés sur les murs. Donc il y a quelque chose comme ça chez vous de très ancré. Donc, par exemple, pourquoi South Park en particulier ? Parce que je suppose que c'est un des gros livres, des premiers.
Tout à fait. En fait, on a connu South Park quasiment au début de sa diffusion en France sur Canal Plus à l'époque, début 2000. Et très rapidement, on a vu que, pas tous les épisodes, faut dire ce qui est, certains épisodes avaient une vraie morale philosophique. Et en fait, en cherchant le DVD des épisodes de South Park, on a vu qu'il y avait un prof de philosophie aux États-Unis de la faculté de Berkeley, qui est pas la moindre faculté, la moindre université américaine, qui avait réuni une vingtaine de philosophes, mais eux avaient philosophé sur l'ensemble de l'univers South Park. En fait, la base fondamentale de notre travail, on voit des thématiques qui sont stéréotypées par certaines personnes. South Park, c'est vulgaire. Les livres érotiques, c'est pour les personnes vicieuses. Les graffitis, c'est du vandalisme urbain.
Donc attendez, je vous parle. Donc à partir de ça, vous réagissez, c'est ça?
Voilà, c'est une forme de... comment dire, c'est une manière de réhabiliter certains sujets qui sont vus par le petit bout de la lorgnette. Et quand il y a matière à justifier en disant on peut être d'accord, le graffiti est du vandalisme urbain, de toute façon c'est puni par la loi, donc au sens juridique du terme effectivement c'est du vandalisme urbain. Maintenant il y a les tags qui sont des étiquettes, donc c'est juste une signature stylisée. Il y a les graffitis illustratifs qui peuvent être jolis, et il y a les graffitis à message plus ou moins vindicatifs, plus ou moins intelligents dans leur expression. Et voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'il ne faut pas juger tout à l'emporte-pièce, qu'il faut essayer de voir un petit peu le premier, le second, voire le troisième degré, qu'on peut faire et dire des choses intelligentes sur des sujets qui sont très décriés parce que méconnus, voire complètement inconnus.
D'accord. Donc vous avez trois bouquins actuellement, la philosophie, sous par quoi, ça trouve le cul, ça c'est pipi caca. Nous avons... Le bouquin coquin et taquin d'une catin et d'un libertin, c'est érotique. Voilà. Et puis, les graffitis.
Ça, c'est notre premier livre, c'est « Lendemain du grand soir ». En fait, ce qu'on voulait faire, puisqu'on dit toujours, c'était la grande époque de Attaque et l'altermondialisme, pardon, qui malheureusement a un petit peu battu en brèche, n'épiloguons pas là-dessus. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'était, puisque Attaque disait « Un autre monde est possible », oui, mais lequel ? Et ce qu'on voulait faire, pareil, en partant d'un grand auteur, qui n'est autre que Thomas More, qui était quand même chancelier de Henri VIII, donc l'équivalent du Premier ministre, 16e siècle, ce qu'on voulait faire, c'était une version moderne de Voyage en Utopia, après le nazisme, après le communisme, et à l'heure actuelle d'une crise systémique du capitalisme ou de l'État, où il y a énormément de choses à remettre en cause. Donc, c'est des pistes de réflexion en utilisant des bases historiques, tous les fondamentaux et les expériences révolutionnaires qui ont pu être mises en application depuis bien avant la première révolution de 1789, puis 1848, la commune de 1871 et mai 68, etc.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi Marianne comme logo.
Voilà, Marianne est notre marraine parce que on trouve que malheureusement la cause de Marianne a été galvaudée par l'État. La République n'est pas représentative des grands idéaux qui ont été édictés lors de la Révolution française. La preuve en est, c'est que au-delà de nous, les grands philosophes du 19e se sont toujours posé la question de la résolution de la question sociale, qu'on n'a toujours pas réglée entre-temps.
Est-ce que vous pouvez nous faire le portrait des 12 comme ça? Qui sont-ils? Quel âge ils ont en moyenne? Quel milieu?
Alors en fait, on est tous de Montpellier, soit originaires de Montpellier, soit...
Voilà, vous n'avez pas l'accent.
Non, mais je suis alsacien à la base et j'ai pas l'accent non plus. J'ai l'accent d'un citoyen du monde quelque part. Donc en fait, on s'est tous rencontrés à un moment donné sur Montpellier, soit lors de rencontres entre amis, soit lors d'expositions ou de rencontres plus ou moins littéraires, artistiques, ce genre de choses. Il n'y a que moi qui, Al Lucinon, qui suis mis sur le devant de la scène publique. Pour des raisons d'anonymat des autres personnes qui ont des métiers plus traditionnels, des familles qui n'ont pas envie de se mettre en avant, ils veulent qu'on respecte leur vie privée. Concrètement, qui sont-ils ? Donc les 11 autres sont des personnes de différents milieux ethniques, culturels, socioprofessionnels. On va dire que c'est entre 25 et 40, 45 ans, même s'il y a un pic à 60 avec notre doyenne, qui apporte, si vous voulez, l'intérêt d'être 12, c'est que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice en fonction de sa culture, son éducation, son origine et son expérience professionnelle, son parcours de vie au sens large.
Donc en fin de compte, le projet est le seul point commun.
Exactement. Le projet est le seul. Enfin, c'est pas le projet en tant que tel. C'est la charte éditoriale qui est le seul point commun au-delà du fait qu'on partage bon nombre d'intérêts culturels, politiques, historiques. Mais après, il y en a qui sont plus par rapport aux différents livres. Si c'est une question que vous alliez éventuellement me poser, par rapport aux différents livres, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il y en a qui ont, par exemple, pour Bouquin Coquin, puisque c'est le plus généraliste, on va dire. Certains ont fait des recherches très sérieuses parce qu'ils sont plus intéressés par tout ce qui est scientifique. Des recherches sociologiques, historiques, anthropologiques sur la prostitution, etc. D'autres ont plus un travail des mots parce qu'ils sont plus littéraires. Donc eux ont fait plus des recherches de jeux de mots, de mise en forme littéraire intéressante. Voilà. Après, moi, mon travail, on fait des réunions littéraires et moi, mon travail, c'est de lisser, entre guillemets, tout ça pour que ça reste le style du collectif des Loup-Singes et non pas le style d'un tel, un tel, un tel, un tel, pour éviter la cacophonie rédactionnelle.
Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas l'un puis l'autre qui écrit à son tour, mais qu'en fait, vous prenez quelques idées de plusieurs du collectif, et c'est vous-même qui vous chargez de coordonner, de reprendre tout ça, c'est ça, et en une seule main.
En fait, au début de chaque projet, on définit une trame éditoriale qui est spécifique à chaque livre, en fonction de l'intonation qu'on a envie de donner, selon le sujet qui est traité. Et de l'évolution aussi de notre style littéraire au fur et à mesure des livres. Après, chacun, on assigne à chacun une fonction, une responsabilité dans la recherche d'informations, dans la recherche d'un style adapté, dans la recherche de jeux de mots cohérents avec l'intonation qu'on veut donner au livre. Et ensuite, chacun part dans son sens, fait son petit bonhomme de chemin, fait son travail. Régulièrement, il y a des conférences de rédaction, comme dans n'importe quel magazine. Finalement, c'est exactement ça. C'est comme un magazine. Il y a une conférence de rédaction où on fait le point étape par étape. Et au fur et à mesure, à un moment donné, on centralise toutes les informations. Là, on définit plus concrètement en fonction de tout ce qui a été trouvé dans les différents champs concernés par le travail éditorial. On mélange tout ça et d'un commun accord, on choisit une formule stylistique. Et c'est vrai que moi, je lisse le travail. Non pas que j'ai une formation littéraire, mais c'est vrai que j'ai plus le temps parce que je fais ça à plein temps, alors que les autres ont un travail, ont une vie familiale, etc.
La distribution.
Alors, heureusement ou malheureusement, allez savoir, toujours est-il que nous sommes des anarchistes convaincus. L'anarchisme n'est pas un mot sale. L'anarchisme, c'est le fait qu'il n'y ait pas de chef, à ne pas confondre avec l'anomie, avec le fait qu'il n'y ait pas de structure. Donc nous, en fait, on considère, c'est le problème de l'édition aujourd'hui, c'est que les personnes qui travaillent de leur plume ne sont pas rémunérées à leur juste valeur. Puisqu'il faut savoir que par le biais d'un éditeur classique, un écrivain touche à peu près 10% du prix du livre, sachant que 10% sont le prix, et encore 10%, je suis gentil effectivement. 10% revient au coût d'impression, ce qui laisse 80% pour les frais de fonctionnement, les frais de marketing, etc., auprès de l'éditeur. Ensuite, un libraire prend 30% pour ouvrir un carton et mettre en rayon. Alors, on sait très bien qu'on va se faire beaucoup d'ennemis par rapport à tout ce qu'on dit, mais on l'assume parce que tout le monde le sait. Pour nous, en tant qu'anarchistes, l'autoproduction est la seule solution. Donc, on vend exclusivement en direct, par le biais d'Internet, par le biais de salons, par le biais de réunions Tupperware littéraires chez des amis.
En fin de compte, je suis assez déçu parce que vous m'aviez parlé de décalage, vous parlez d'anarchiste, etc. Et qu'est-ce que je trouve un petit jeune homme propre sur lui qui dit des choses très intelligentes, très calmes et tout. Et vous pouvez répondre là-dessus?
Mais au risque de vous décevoir une seconde fois, les anarchistes ne sont pas des bons sauvages. Ils peuvent être tout à fait... nous, on est incorporés à notre système. On vit pas sous les ponts. On n'est pas la bande à Bono à dévaliser les riches pour donner aux pauvres. Même, si, enfin bon, bref. Non, par contre, juste pour épiloguer, pour en finir avec ça, par rapport à toutes les révolutions qui ont pu avoir lieu auparavant, pour combattre un système, il ne faut pas être en dehors, mais il faut être à l'intérieur du système. Et c'est vrai que si on refuse le système de distribution, le système littéraire, l'establishment, comme on pourrait l'entendre, c'est pas pour autant que on a une structure. Encore une fois, il ne faut pas confondre anarchie et anomie. On a une structure, on a une pensée clairement définie, et on peut être révolutionnaire et décalé sans pour autant avoir des vêtements qui puent, qui partent en loc, et un discours incohérent. Bien au contraire.
Bien sûr. Bon, je vous donne le choix d'un livre, et puis vous l'expliquez à un livre. Allez, le bouquin coquin, là.
Alors déjà, il faut savoir que la couverture, si vous avez l'occasion de voir la couverture de bouquin coquin et taquin d'une catin et d'un libertin, tous nos textes sont toujours disponibles, enfin consultables en tout cas, sur notre blog collectif12singes.overblog.com. Donc les articles sont consultables et il existe une version e-book qui est beaucoup plus agréable à lire puisque c'est comme si vous aviez le PDF devant vous avant qu'il parte à l'impression. Donc la couverture peut être jugée scandaleuse. Ce qu'il faut savoir, comme pour la logique même du collectif des 12 singes, c'est qu'on est parti d'une caricature de la Révolution française où on voit Marie-Antoinette tenir la bride d'une autruche à cou et tête phallique que chevauche Lafayette. Donc c'est pas nous qui avons commencé à faire des choses coquines. Alors bouquin coquin, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait longtemps qu'on voulait écrire un livre érotique, mais qu'il ne soit pas un livre pornographique destiné exclusivement aux pornocrates, voire aux pervers les plus délurés. Toujours est-il que ce qu'on voulait faire, c'est... Encore une fois,
mais ils peuvent le lire quand même.
Ils ont le droit, nous, on ne suis pas nos lecteurs.
Et mon fils de 12 ans?
C'est en fonction de l'éducation que vous souhaitez donner à votre enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un livre vulgaire. Il est osé par beaucoup d'aspects, mais il n'y a à aucun moment un seul terme qu'on utilise dans la vie courante, ou en tout cas dans le langage familier.
Est-ce que c'est pas un peu d'hypocrisie quand même?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire, comme pour tous nos autres livres, c'est qu'on peut parler de choses très taboues, très sensibles, et malheureusement, aujourd'hui, on vit une époque où la sexualité, même si elle s'affiche dans les kiosques de journaux à hauteur de vision d'enfant, ça reste quelque chose de tabou, puisque on devient une société conservatrice par rapport à beaucoup d'aspects. On peut plus du tout faire les mêmes choses que, au-delà de mai 68, les derniers cinémas X ont fermé dans les années 80-85. Bref, toujours est-il que par rapport à bouquin coquin, on voulait montrer que la sexualité, ou la recherche de son identité sexuelle plutôt, a un impact sur sa vie sociale, professionnelle, amicale, etc. Donc ce qu'on a fait à la manière d'un documentaire de télévision, on part de la vie de deux jeunes enfants, une petite fille d'un milieu catholique, bourgeois, bordelais, et d'un petit enfant, petit garçon du milieu ouvrier, musulman, banlieue. Et comment ils construisent, en faisant plein d'expériences sexuelles, comment ils construisent leur identité sentimentale et sexuelle jusqu'à la trentaine, et comment justement leurs différentes expériences impactent sur leur vie sociale, professionnelle, amicale, etc. Sans jamais être vulgaire.
Très bien, très bien.
Et est-ce que le bouquin en préparation, ou là, dont l'idée germe, serait la sexualité des seniors aussi, dont il faut parler?
On est tout à fait d'accord. Là, le prochain livre qui sortira incessamment sous peu, c'est des démos. Des mots font des mots sur 10 mots, qui est un petit peu construit, puisqu'on adore donc les jeux de mots, etc. Mais par rapport à ce que vous disiez, Gwenaëlle, excusez-moi, autant pour moi, il est prévu une suite à Bouquin Coquin. Donc on retrouvera les mêmes agrémentés de deux autres personnages qui sont déjà cités ponctuellement, donc Marie-Madeleine et Joseph. Je vous laisse découvrir ce qu'il en est puisque tout est consultable sur notre blog. Donc ce sera la vie sexuelle des quinca, sexa, septa, octogénaire. Voilà, Bouquin Coquin, c'est donc de 12 ans à une trentaine d'années, et le prochain ce sera sûrement de 50 à 80 ans, puisque effectivement il y a aussi un tabou énorme sur la sexualité des personnes d'un certain âge, alors que elles retrouvent une seconde jeunesse post-hormonale.
Donc ce qui veut dire que de 30 à 40 ans il n'y a pas de sexualité.
Non, parce qu'on a des enfants à s'occuper et qu'on n'a plus le temps.
Bon, alors une dernière question.
Oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure du blog, de e-book, et moi j'aurais souhaité connaître votre position justement par rapport aux livres numériques et à la distribution gratuite ou non de ce genre d'exemplaires que vous proposez.
Alors à titre d'information, donc en tant que cofondateur avec Edith Ledico, des gros mots cachés dans les mots, donc cofondateur du premier salon Facebookin des grands auteurs de la petite édition, j'ai vu dernièrement qu'il y avait eu un article de blog qui nous reprochait qu'il n'y avait pas eu d'écrivain uniquement e-book qui a été présent sur le salon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il existe très peu de purs écrivains numériques, c'est-à-dire qu'ils ne passent jamais par le papier. Bien entendu, on les aurait accueillis avec grand intérêt. Malheureusement, l'occasion s'est pas présentée. Et la deuxième chose, c'est que donc on m'a reproché personnellement d'avoir dit que les e-books n'étaient pas pratiques, une taille trop grande, que à la lecture ça fatiguait les yeux, etc. Entre temps, j'ai évolué puisque j'ai eu l'occasion de lire sur une tablette, sur un e-book.
Les tablettes avec la pomme là dessus, oui c'est ça.
Voilà, exactement. Sachant qu'il y a d'autres marques, alors si on cite la pomme, on est obligé de citer les autres. Bref, les tablettes, les e-books, les e-tablettes. Enfin bref, vous voyez, c'est quoi ce que je veux dire. Donc concrètement, ce que j'ai répondu à cette personne-là, c'est que beaucoup de gens, en tout cas, travaillent toute la journée sur un ordinateur, puisque l'ordinateur a envahi notre vie et l'a simplifié par beaucoup d'aspects. Toujours est-il que beaucoup de gens travaillent un certain nombre d'heures pour, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, sur un ordinateur, sur un écran, et que au moment d'aller se coucher, un vrai livre papier est quand même plus intéressant, dans le sens où ça repose les yeux, on peut écrire des annotations dans la marge, on peut toucher le papier. Et l'argument entre guillemets ultime que je donnais, c'est que même si la technologie permet par exemple d'avoir des e-tableaux avec un rendu très propre, etc., je suis pas sûr qu'un e-tableau fasse la même impression qu'un vrai tableau sur toile, que ce soit d'un maître ou d'un artiste lambda dans le cadre d'un salon.
Bon, maintenant, vous partez un mois en Corse, par exemple, c'est faramineux parce que au lieu d'emmener vos 20 bouquins, vous emmenez l'iPod.
Alors, on est bien d'accord. Sur une question pratique, je dénigre absolument pas les e-books au sens large. C'est une question d'utilisation personnelle, de capacité physique, physiologique par rapport à ses yeux, etc. Si vous avez des lunettes. Moi personnellement j'en ai pas, je ne sais pas du tout comment ça peut se comporter, ou avec des lentilles à l'usage et à l'usure, si vous lisez pendant 3-4 heures. J'ai fait également le parallèle avec les écrans de téléphone portable ou de smartphone qui permettent de recevoir de la télévision. Alors si c'est pour regarder un flash info, etc., c'est très bien. Par contre, voir un film en entier sur un téléphone portable, je pense que c'est moins agréable, et je suis pas sûr que lire Guerre et Paix sur un e-book ce soit rendre hommage à l'auteur et se rendre hommage à soi-même. Après, chacun a son point de vue personnel, je n'ai pas de jugement global, loin de moi cette idée. Voilà. Mais c'est juste aussi que je n'aime pas cette fascination idéologique, technologique, dans le sens où si on ne peut pas télécharger une version e-book, c'est que vous êtes ringard. Si vous aimez le livre papier, c'est que vous êtes à contre-temps, etc. Voilà.
Ok, on va terminer. Alors, votre nom, votre prénom.
Alors, mon nom de scène, c'est Al Lucinon. Mon prénom de l'état civil, c'est Mathieu. Et voilà.
D'accord, Mathieu. Il faut donner le site, le nom complet.
Alors, le nom complet, c'est Collectif des Douze Singes pour la partie rédactionnelle. Il existe les photographeurs des Douze Singes pour la partie graphique avec deux F, donc graffiti, puisqu'on essaye de, on est en train de monter un réseau de contributeurs, photographeurs et graffeurs qui nous transmettent tout ce qu'ils ont pu photographier dans la rue, donc graffiti à message. Donc n'hésitez pas, toutes les informations de toute façon sont sur le blog central, puisqu'après chaque livre a un blog dédié et une version e-book dédiée, mais le blog central reste collectif 12 singes, 12 en chiffres, .overblog.com.
Vous leur dites ?
Le mieux, c'est de passer par un célèbre moteur de recherche. Vous lui demandez très très gentiment, collectif des douze singes, éventuellement avec des guillemets par rapport à tous les résultats qui sont liés au film L'armée des douze singes. Donc guillemets, collectif des douze singes, fermez les guillemets. Vous demandez très très gentiment à Mister G et il vous dira où est-ce qu'on peut nous trouver.
Parfait. Une dernière chose quand même. Alors cette journée, comment s'est-elle passée ?
Journée fort sympathique avec énormément d'exposants très très intéressants, beaucoup de visites, des bonnes ventes, de très bons retours sur nos livres. L'avantage, c'est qu'on a des couvertures qui tapent à l'œil, qui intriguent, et après c'est le discours malheureusement commercial, mais on a beau être le meilleur écrivain au monde, ce qu'on n'est pas forcément, c'est pas, encore une fois, c'est pas à nous de juger, il faut savoir mettre en avant, présenter convenablement ses livres. Mais toujours est-il que je tiens à féliciter Lynn Amirayan qui a organisé le Ciel de Paris, donc le salon indépendant des écrivains et libraires qui se tient encore jusqu'à demain dimanche 7 novembre à la BNF, une magnifique salle belvédère au 18e étage avec une vue magnifique sur Paris. C'est splendide, des rencontres fort intéressantes, des auteurs non moins intéressants avec des livres tout aussi passionnants. Une très belle journée et un très beau week-end au sens large.
Donc vous revenez l'an prochain au Salon Ciel de Paris.
Oui, et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais a priori, si le projet qui est en cours, ou en tout cas dans la tête de Lynn Amirayan, voit le jour, je vous garantis que ça va être quelque chose de particulièrement étincelant et d'excellentissime pour les auteurs, pour les lecteurs, pour le public au sens large.
Merci aux douze singes.
Merci à vous, et puis bonne continuation et longue vie à votre émission.
Merci.
Salon Ciel aussi.
Au revoir. Voilà, l'émission est terminée. Merci à Gwenaëlle. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne semaine. Au revoir.